milieu de tous les mensonges de l'ennemi, sache que Dieu ce matin veut te dire qu'il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime tellement, il est passionné pour toi et veut faire vraiment partie de ta vie. Comment est-ce que nous, on doit se comporter aujourd'hui en tant que chrétiens dans une société qui ne veut pas vivre selon les principes de Dieu? Comment est-ce qu'on peut agir en tant que chrétiens comme des personnes qui ont reçu la lumière quand on nous accuse de faire peut-être preuve de haine envers certains groupes de personnes? Je vous invite à prendre la parole dans 1 Corinthiens au chapitre 6. À partir du verset 1. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus encore les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous aucun homme qui puisse juger ses frères et sœurs. Au contraire, il y a un frère en procès contre un frère, et cela devant les incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice au lieu que de traîner quelqu'un devant un tribunal? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désirés de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai dominer par rien du tout. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. J'aimerais partager avec vous ce matin trois comportements à adopter face aux gens qui ne vivent pas selon les principes de la Bible. Comment se comporter face aux gens qui pourraient nous accuser d'avoir de la haine envers une certaine catégorie de gens? Par exemple, on pourrait croire aujourd'hui que l'Église a quelque chose contre les gens qui sont dans un style de vie homosexuel. C'est un sujet assez chaud dans la société aujourd'hui. Si on parle d'homosexualité, ça peut mettre les gens dans l'Église mal à l'aise, parce que parfois l'Église ne sait pas sur quel pied danser. Parfois on sent qu'il y a parfois des chrétiens qui agissent plus avec de la haine qu'avec de l'amour, et on peut se poser la question: comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit pouvoir répondre à ça? Le mot grec utilisé à la fin du verset 9, c'est le mot arsenokoites, qui a été traduit en français par ni les homosexuels, hein, qui veut dire littéralement un homme au lit avec un autre homme. Et il est marqué que les gens qui vivent ce style de vie n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il s'est marqué. En tant que chrétien, on croit que le racisme, on est contre le racisme car on croit que l'ethnicité d'une personne, c'est quelque chose de sacré. C'est un reflet de Dieu, en fait. Eh bien, on a en fait la même vision pour la sexualité. On pense que c'est quelque chose de sacré, et que la déviance est une conséquence de la chute. Alors, lorsqu'on parle de l'homosexualité, on n'est pas en train de prêcher contre quelque chose, mais on veut dire aux gens qu'on pense que Dieu a quelque chose de meilleur pour eux. Et à plus juste titre, en fait, on n'a pas envie de leur dire, on a envie qu'il y ait une révélation personnelle qui se passe dans leur vie. Ici, je parle d'homosexualité parce que c'est un sujet de société assez chaud. Moi, je me rappelle que j'ai beaucoup de fois été dans des endroits, je me suis identifié en tant que chrétien, c'était la première question qu'on me posait: qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? J'avais encore rien dit d'autre, moi je... Parfois on dit des choses et comme ça les gens réagissent. Je me souviens, j'étais avec un ami dans un restaurant à Waterloo, et alors cet ami, j'arrive à table et il me présente à son autre ami qui était là: Benjamin, il est pasteur. Personne ne me regarde, il dit: ah, moi je crois pas en Dieu. Je n'avais encore rien dit. Je ne m'étais pas encore assis. Je ne sais pas pourquoi on m'expliquait ça, mais c'est pas grave. J'ai répondu d'une façon assez vive. C'est pas une parole de l'esprit. Il se dit, c'est pas grave parce qu'il croit en toi. Alors ça l'a un petit peu déstabilisé. J'ai pu m'asseoir. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que quelques semaines plus tard, cet ami me raconte, tu sais, j'étais avec lui dans la voiture. Quelques semaines plus tard, et il me sort comme ça de n'importe où. C'est dommage parce qu'il croit en toi. Tu sais, je pense à ce que Benjamin il m'a dit là l'autre jour. Cette parole lui était restée dans la tête depuis quelques semaines. Et ça, je pense que c'est l'action du Saint-Esprit hein, qui utilise certaines de nos paroles ou qui met certaines de paroles en nous et qui font réfléchir les gens. Mais au-delà de tout ça, au-delà du fait que parfois les gens réagissent, on peut se poser la question, nous, quelle attitude avoir face aux gens qui ne veulent pas vivre au principe de la Bible. Si suivre Jésus est un choix, on va être confronté à des gens qui font un choix différent. Et si Dieu respecte ce choix, est-ce que nous, à juste titre, on ne devrait pas également le respecter? Alors, je pense que le premier principe à adopter, c'est d'aimer les gens comme le Père Céleste les aime. Matthieu 5, verset 13, dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » On est appelé à être la lumière du monde, nous sommes appelés à être une lampe qui éclaire toute la pièce, et c'est l'amour qui doit nous caractériser. L'amour entre nous et envers les gens de l'extérieur. Si nous perdons notre amour, à quoi servons-nous ? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à la façon dont vous vous comportez les uns avec les autres, dit Jésus. Je pense que Dieu veut nous appeler à vivre une nouvelle dimension d'amour envers les gens qui sont autour de nous. Est-ce qu'on devrait conditionner l'accès à Dieu ? Est-ce que quelqu'un devrait être habillé d'une certaine façon pour venir ici à l'église ? C'est une bonne question. Est-ce que, si je ne mettais pas de chemise, est-ce que je pourrais quand même rentrer dans le bâtiment ? Est-ce que quelqu'un devrait avoir une cravate ou un voile ? Est-ce que des gens de toute ethnicité seraient les bienvenus ? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir les gens que Dieu a le cœur d'amener ? Je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons faire attention de ne pas tomber dans le piège du manichéisme. Alors, je sors un gros mot ce matin à la prédication, le manichéisme, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors, c'est l'idée de simplifier tout à la lutte du bien et du mal. Il y a un prêtre et un sociologue qui s'appelle Jacques Grandemaison qui dit « l'esprit manichéen » transforme toute distinction en opposition et ramène systématiquement à la complexité du réel à deux termes qui s'opposent, en recourant à des stéréotypes. Je vais un petit peu expliquer. Si je prenais une pancarte où il est écrit « Dieu déteste les homosexuels » ou si je prenais une pancarte et je le mettais dessus « Les ex-homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu », ce qui serait plus correct à ce que la Bible vient de déclarer, et que je vais tenir cette pancarte à la Gay Pride, hein, voilà. Et que je commençais à crier ce qui est marqué sur ma pancarte. Est-ce que je serais un bon témoignage pour les gens ? Un témoignage rempli d'amour ? C'est une bonne question à se poser, parce que moi je me rends compte que j'ai parfois été confronté à des chrétiens qui prennent cette vérité et qui s'en font des grands apôtres, des grands défenseurs. Il est intéressant parfois comment on devient justifié de la parole. On devient ces super apôtres qui dénoncent le péché de cette façon manichéenne. On tombe dans le stéréotype en disant « les gens de l'église, c'est les gentils, et les homosexuels, c'est les méchants. » Le manichéisme, c'est une pensée grecque qui veut essayer de vraiment polariser les choses. On a un peu tendance à faire ça quand on est en conflit avec quelqu'un. Si on manque de compassion avec quelqu'un, on va juste l'enfermer dans cette idée que c'est un méchant, et que je suis un gentil. Que moi j'ai raison, et que l'autre personne elle a tort. Je me rappelle, j'écoutais un coach récemment dans une conférence catholique qui disait un truc intéressant. Il dit, depuis qu'on est enfant, on nous a appris à jouer à un jeu, c'est pas le bon jeu. On nous a appris à jouer au jeu du qui a raison et qui a tort. Mais c'est pas ça qu'il faut jouer. Le vrai jeu, c'est donner sans attendre en retour, et recevoir comme si on ne t'avait jamais rien dû. Si tu changes ce jeu dans ta tête, la façon dont tu vis ta vie va changer. Parce que tu vas recevoir tout comme un cadeau et tu vas attirer les gens parce que tu es quelqu'un qui donne. Je trouvais ça vraiment intéressant. Cette idée manichéenne, cette idée de stéréotyper tout, il n'y a rien de plus faux puisque la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous justifiés par la grâce à partir du moment où on se sent mieux que quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment de Dieu. On a tous été au même niveau et on est tous au même niveau. Par contre, être rempli de l'amour de Dieu, de la vision de cet amour, de la vision que Dieu a des gens et les amener devant l'espoir qui s'appelle Jésus, ça c'est quelque chose qui est inspiré par Dieu. Dieu veut qu'on soit ouvert avec tous les gens qui entrent dans cette pièce, mais également tous les gens autour de nous. Je vais vous dire un secret. On n'a pas besoin d'être d'accord avec les gens pour les aimer. On n'a pas besoin d'être d'accord avec les gens pour les aimer. Pour les accepter. Hein, s'il y a des gens qui vivent autour de toi, qui ne vivent pas selon la vérité que tu as connue, selon la vérité que tu définis, je propose qu'on les amène à la vérité qui s'appelle Jésus et pas à notre vérité. Il y a une petite différence. Je voudrais finir sur quelque chose de très personnel, un point, sur l'idée que la sexualité c'est quelque chose de très personnel, et après avoir parlé moi des gens qui étaient attirés par les personnes du même sexe, je suis arrivé à deux conclusions. C'est parfois indépendant de leur volonté, c'est pas quelque chose que les gens décident, parfois c'est physiologique, c'est-à-dire que ils peuvent essayer de tout leur corps de ne pas sentir ces choses-là. Parfois, c'est au-delà de leur force. Hein? C'est comme quelque chose de physiologique. Hein? Et c'est probablement quelque chose, les psychologues disent que c'est quelque chose de tellement profond, hein, que moi, je n'ai pas envie de me mettre dans une attitude où je prononce des paroles de condamnation sur la vie de quelqu'un. Parce que je sais que si jamais les gens ont Jésus, je n'ai pas besoin de devenir un de ces faux justiciers-là. Le Saint-Esprit, il est tout à fait capable de convaincre les gens de péché. Ce n'est pas mon rôle. Et je vais même dire, je ne dois pas prêcher contre l'homosexualité, je dois prêcher Jésus et le laisser faire. Et si ce que la Bible dit est vrai, eh bien l'œuvre va se faire. C'est la meilleure façon de pouvoir avoir ce test-là. Amène quelqu'un à Jésus et regarde le changement qui se passe en lui. Alors si un jour on a deux personnes qui entrent ici et qui se tiennent la main alors qu'elles sont du même sexe, comment est-ce qu'on réagirait ? Il se mettrait devant et se tiendrait la main. J'espère que personne ne se sentirait mal à l'aise, puisque Dieu ne se sent pas mal à l'aise. Hein? Et si on a l'impression qu'on laisse entrer des pécheurs dans l'église, on peut toujours se tourner vers nous-mêmes et on peut accepter que quand on est entré dans la famille de Dieu, on avait également cette identité-là. C'est bien des gens pécheurs qui s'approchent de Dieu. Je propose qu'on puisse vraiment garder cet amour en tête. Que si quelqu'un rentre dans l'église, il n'y ait que des sourires pour l'accueillir. Qu'on ne soit pas mal à l'aise. Qu'on ne tombe pas dans le piège du manichéisme, qui est certainement un outil que Satan utilise pour diviser les gens. Mais qu'on puisse être rempli par l'esprit. Et convaincu que, ok, moi je vais être une cause de chute pour personne. Moi je vais parler de Jésus aux gens. Et je vais attendre de voir ce qui se passe. Quel comportement adopter face aux gens qui ne vivent pas selon le principe de la Bible ? Si le premier point c'est de se comporter dans l'amour, le deuxième est de vivre dignement et sans hypocrisie. De vivre digne de l'appel qu'on a reçu. Versets 8 à 11, mais c'est vous au contraire qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est intéressant de voir comment parfois on peut être sélectif dans notre lecture de la parole de Dieu. Souvent le verset est cité ici pour prêcher contre une certaine catégorie de personnes, et pourtant Paul s'adresse à des croyants et pas à des non-croyants. Il dit ici que les gens qui font preuve d'injustice n'héritent pas du royaume de Dieu. Des gens dans cette église avaient décidé de se comporter de façon indigne en allant au tribunal les uns avec les autres. Et Paul dit qu'il vaut mieux souffrir d'injustice que de faire subir les conséquences du système judiciaire de l'époque. Alors, si on compare ça à maintenant, ça va peut-être être un petit peu difficile à comparer. Imaginons un système judiciaire où si on vole, on te coupe la main. Ça existait ça avant. Et que dans une église, on se traite devant les justices. Paul dit, il vaut mieux souffrir d'injustice que d'être responsable pour un frère qui se fait couper la main. Alors, je ne suis pas un spécialiste du système judiciaire de l'époque de Corinthe, mais je suis certain que c'était pas sympa. C'était pas comme aujourd'hui. Et Paul cite toute une série de choses qui ne devraient pas se trouver dans l'Église. Il parle de ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, des idolâtres, des adultères, des travestis, des homosexuels, des voleurs, des hommes toujours désireux de posséder plus, des ivrognes, des calomniateurs et des exploiteurs qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, on lit le verset, on peut ici se remettre en question. Il y a des choses plus faciles que d'autres. Alors, peut-être moi, je vais dire, ah, mais ça va, mais je me pose la question, Seigneur, est-ce que moi, parfois, j'ai pas fait preuve un peu d'idolâtrie avec certaines choses? Est-ce que j'ai pas rendu un faux témoignage? Est-ce que parfois, j'ai pas fait preuve d'avarice ou exploité un frère ou une sœur? Si on veut convaincre la société du message qui nous habite, on doit laisser ce message nous habiter et nous transformer. Moi, je remarque que parfois, dans l'Église en Belgique, il y a cette idée d'avarice. C'est dur pour les Belges de donner, parfois. Hein? Parfois, dans les Églises, la dîme, c'est un sujet tabou. C'est ça, c'est tabou ici à l'Église, parce qu'elle la dîme ou pas. Ça va, hein? On peut en parler. Ça va. Hein? Parfois, dans certaines Églises, c'est un sujet tabou, l'argent. Comme si, à partir du moment où on parlait d'argent, mais je sais pas, moi, il y a des gens qui allaient partir. Le Belge aime bien sa petite retraite et on comprend le Belge. Pourtant, si on regarde, l'avarice est donc c'est juste à côté de d'autres choses pour lesquelles on a peut-être des sentiments un peu plus forts. N'ai-je pas constaté parfois de l'adultère ou de l'immoralité, de l'idolâtrie ou du mensonge, mais n'ai-je pas moi-même commis parfois une de ces fautes alors que je faisais partie de l'Église? N'ai-je pas vu ces choses et gardé le silence, qui est aussi être d'accord par omission. Et tout ça, souvent, on le met à côté du style de vie homosexuel. Et pourtant, j'entends plus de chrétiens fâchés sur le mariage pour tous que sur le manque de dîmes dans les églises belges. Manichéisme. Et si on laissait Dieu conduire, hein? Alors ici, moi, je suis absolument pas ici pour faire un procès contre quelqu'un en particulier en lisant ces versets et que quelqu'un se sente condamné, puisque moi-même j'ai dit que parfois je pense que j'ai commis des péchés pareils, mais je rappelle qu'on est sauvé par grâce et qu'en tant qu'Église, on n'est pas ce musée de saints, mais plutôt cet hôpital de pécheurs qui apprend chaque jour à suivre Dieu, à se sanctifier de plus en plus. Hein? Donc c'est pas quelque chose qui vient créer la condamnation, ce que je suis en train de parler. Je suis juste en train de mettre en avant que parfois, on fait preuve de sélection sur la partie du verset qui nous intéresse et celle qui nous ferait du mal. On la laisse un petit peu de côté. Et si on laissait Dieu conduire, en laissant le message qui nous habite nous transformer? Très important pour avoir un comportement honnête et sincère face aux gens de la société. Alors, le troisième principe, comment est-ce qu'on voit le Père et comment est-ce qu'on le présente? Parce que parfois, lorsqu'on parle de l'Évangile, on parle de Jésus comme d'un sauveur qui était là pour expier les péchés du monde. Et c'est vrai. On parle de la mort cruelle que Jésus a vécue sur la croix. Car les hommes étaient cruels, et ça c'est vrai. Et nous parlons de Dieu le Père qui a reçu le sacrifice de Jésus comme pardon de nos fautes. Moi, je voudrais vous poser une question. Qui a envoyé Jésus? À qui est-ce que Jésus obéissait? Jean 5, partie du verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même le témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Jean 14, verset 9, « Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comme tu dis, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous le dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres. » C'est le Père qui a envoyé Jésus. Ce n'est pas un Père en colère, fâché sur l'humanité, mais rempli d'amour, vraiment de compassion pour nous, qui a décidé d'envoyer, de s'envoyer, de s'incarner en fait, de s'envoyer lui-même sur terre. C'est parfois pas facile à comprendre pour nous cette idée de trinité, d'un être avec trois personnalités qui partagent la même essence, hein, et qui à tout moment de leur existence, qui est infinie, partagent tout, pensent tout, ressentent tout en même temps et font toutes choses ensemble. Mm-hmm. Hein, dans cette image, Dieu nous a envoyé cette image, cette idée du mariage, du couple, est un reflet de cette relation trinitaire entre l'homme, la femme et Dieu. À nouveau, ces gens qui échangent tout, intimité, partage, émotion, toute chose est partagée. C'est le Père qui a envoyé Jésus. Et parfois on présente Dieu comme ce Père fâché, et là on s'en tient un petit peu loin, on a peur de qu'il va venir juger nos vies. Mais la seule révélation, la plus grande révélation qu'on a de Dieu, c'est à travers Jésus. Et si on comprend les œuvres de Jésus, on comprend les œuvres du Père. Si on peut lire la parole de Dieu à travers les lunettes que Jésus nous a données, à travers les lunettes de la révélation de son amour pour nous, alors je peux même retourner dans l'Ancien Testament, lire toutes les histoires qui me laissaient peut-être un petit peu, je me demandais quel Dieu ferait ça, et puis essayer d'analyser ça. Ok, il y a un Dieu d'amour dans cette histoire-là. Comment est-ce que, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui s'est passé? On doit être comme lui, comme le Père. Aimons le pécheur et détestons le péché. Vivons dans la lumière et refusons l'obscurité. J'ai envie qu'on puisse faire une prière ce matin, une prière assez simple. J'ai envie qu'on puisse demander à Dieu de faire de nous trois choses. La première, c'est d'être un instrument d'amour. D'être quelqu'un qui, tel un instrument, quand les gens sont avec nous, puisse déborder de cet amour. Puisse vraiment être, quand les gens sont autour de nous, ils entendent la musique de l'amour de Dieu. Mm-hmm. Que ce soit avec nos paroles ou avec nos gestes, qu'on puisse juste être vraiment cet instrument que Dieu utilise pour déverser son amour sur les gens, peu importe leur style de vie. Je me rappelle très bien, je parlais à un frère de l'église, c'est un ancien de l'église de Recey, et il me partageait avec toute sincérité, c'est un homme plein d'amour, il me disait... Il avait dû aider quelqu'un qui voyait clairement qu'il était homo à changer sa roue de voiture. Et il s'est surpris à ne pas vouloir le faire, à avoir cette colère peut-être indigne envers cette personne-là pour aucune raison. Et après que j'ai partagé cette prédication, il me disait, mais en fait, c'est vrai, on ne s'en rend pas compte, mais on fait le tri un peu dans nos têtes. On classe les gens entre les gentils et les méchants, alors que... Et moi, je n'aime pas dire de quelqu'un que c'est un homo, parce qu'aujourd'hui c'est pas juste une tendance sexuelle, mais ça ramène à plein de choses, qui est une culture, qui est une identité. J'ai envie de dénoncer l'identité de personne. Les gens sont dans un style de vie, hein. Et puis je sais pas si quelqu'un ici, on vous a déjà juste appelé l'hétéro. Je ne pense pas, hein. On vous utilise votre prénom, et c'est votre prénom qui vous définit. Est-ce qu'on peut pas être ces instruments d'amour, ces gens qui puissent vraiment, peu importe les actions qu'on commet, il y a toujours cet amour qui est imprégné dans nos paroles. Deuxième chose, c'est un ambassadeur de l'espoir. Un ambassadeur de l'espoir. Que lorsqu'on ouvre notre bouche, la personne qu'on vient représenter, c'est Jésus. Et qu'on puisse vraiment représenter cette personne-là de la meilleure manière possible, en amant de l'espoir. Quand les gens sont à terre, quand les gens sont vraiment peut-être liés à des choses, et puis on puisse être ambassadeur de l'espoir. C'est-à-dire dire, les circonstances sont difficiles, et je ne peux pas moi les régler, mais je sais quelqu'un qui peut. Il s'appelle Jésus. Il peut venir régler tes choses. Je me rappelle, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, je parlais avec un pasteur de Tubize, qui était mon professeur au collège biblique, c'est Jacques Dernel, un homme plein de sagesse, et qui partageait avec moi que, on parlait d'école de disciples, c'est quelque chose qui est parfois difficile à vivre pour les jeunes gens qui ont grandi dans l'église, c'est que les gens en dehors de l'église peuvent être heureux. Les gens en dehors de l'église peuvent être heureux. Je vais même le reformuler différemment. Les gens en dehors de l'église peuvent avoir un couple qui réussit. Alors, il faut bien imaginer que parfois, quand on grandit dans l'église, on entend des choses telles que sans Jésus, on ne peut pas être heureux. Sans Jésus, on ne peut pas réussir son couple. Mais on le dit plutôt dans l'exemple. Il n'y a qu'avec Dieu que tu peux réussir ton couple. Alors moi, je suis certain que vous avez déjà rencontré des couples qui ont réussi, et pourtant ils ne croient pas. Et on peut être dans ce questionnement-là, un petit peu de réfléchir, ok, mais alors c'est quoi? Alors bien sûr, quand on dit « sans Jésus, on ne peut pas être heureux », la joie dont on parle, c'est une joie de l'âme, c'est quelque chose qui va bien plus profond qu'un sentiment. Mais c'est une sécurité, que peu importe ce qui m'arrive, il y a Dieu qui me tient entre ses mains. Il y a un sentiment de plénitude en nous, sur le fait qu'on est complet, qu'on a une place dans l'univers et un but dans notre vie. Ça, c'est quelque chose que absolument Dieu nous donne, mais parfois on utilise les mauvais mots pour le dire. Le fait d'être chrétien, bien sûr, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est l'idée de dire, c'est pas qu'il n'y a plus de souffrance, mais c'est que dans nos souffrances, Dieu nous accompagne dans celles-ci. Il nous prend la main, il nous aide à marcher dessus. Il ne fait pas contourner la mer, il nous fait marcher dessus. On passe quand même sur la souffrance, mais on est avec lui. Ambassadeur d'espoir, instrument d'amour et un justicier de la paix. Si à un moment donné on doit se mettre en colère, comme hier soir on a vu avec le groupe de jeunes sur les émotions, si à un moment donné on doit se mettre en colère, c'est par rapport à la paix que Jésus veut amener. Cette paix qu'il amène bien sûr par lui, mais également qu'on voit des injustices autour de nous. Est-ce qu'on reste silencieux quand on voit des gens qui sont maltraités, qui sont dans le besoin, ou est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il y a ce sentiment d'indignation en nous qui vient et qui dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là. » Parce que c'est inscrit en nous, cet amour-là. Moi, je suis certain, Dieu, il voit des choses dans le monde et il a une indignation. Il dit « Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Est-ce qu'on peut être ces personnes-là? Des instruments d'amour, des ambassadeurs de l'espoir, des justiciers de la paix. Je viens finir par la prière pour ce partage que j'ai fait ce matin. Il y avait beaucoup de choses que j'ai abordées. Mais l'idée, c'est un petit peu de dire « Ok, est-ce qu'on trie les gens dans notre tête ?» Ou est-ce qu'on est un peu plus ouvert? Est-ce qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous inspirer sur les choses qu'il veut nous apprendre? J'espère qu'il y a des choses qui vous ont interpellé personnellement ce matin. À nouveau, il n'y a aucune des choses que j'ai partagées n'est là pour condamner, mais pour nous permettre de laisser à l'Esprit de Dieu de venir peut-être changer les méthodes de pensée qui ont été imprégnées en nous, sans même qu'on le sache. Amen. Amen. Père Céleste, on vient devant toi ce matin, on te remercie pour ta présence. On te remercie par ta parole qui nous inspire vraiment des choses bonnes, Seigneur. Seigneur, parfois il y a des gens qui ne vivent pas selon le style de vie que tu voudrais pour eux et c'est toi le premier qui pleure à ce sujet-là. On ne veut surtout pas tomber dans une fausse justification, Seigneur. Se dire plus saint qu'eux ou meilleur qu'eux. On veut être conscient que c'est toi qui nous sauves, Jésus. Et c'est toi qui nous justifies. Seigneur, viens faire de nous vraiment des gens qui répondent l'amour autour d'eux. Qui sont vraiment ces instruments d'amour. Qu'on parle à nos collègues, à nos amis, à nos familles, aux gens à l'école, Seigneur. Qu'on puisse juste être vraiment ces instruments d'amour, ces gens qui sont une source de bénédiction pour les autres. Viens faire de nous des ambassadeurs de l'espoir. Viens nous revêtir de l'espoir, Seigneur. Qu'il y ait cette joie de vivre en nous, cet espoir constant qui fait que les choses sont sous ton contrôle, Jésus. Et qu'on puisse transparaître ça autour de nous. Que même si les circonstances ne vont pas maintenant, qu'on puisse être habité ce matin, Seigneur, par la joie qui s'appelle l'espoir qui est en toi. Et Seigneur, viens faire de nous des justiciers de la paix. S'il y a des fois où, eh bien, on a vu des injustices et on s'est tu, je te demande pardon. Si moi je me suis tu, Seigneur, au moment où il y avait de l'injustice, j'aimerais que tu puisses vraiment nous aider à pouvoir parler quand il y a des choses qui ne sont pas selon ta parole qui se passent, mais d'une bonne façon. À défendre les gens, Seigneur, et pas à les accuser. À prendre leur défense comme toi tu fais, Seigneur. Tu es l'avocat qui ne parle pas trop vite. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Et nous aider à être une église qui a beaucoup d'amour, Jésus. Beaucoup d'amour pour les gens autour d'eux. Et que peu importe les gens qui entrent dans cette pièce, il n'y a que cet amour qu'ils reçoivent et qu'ils te reçoivent toi, Jésus, par-dessus tout. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je vous encourage, si vous avez une prière particulière à faire à Dieu, à la faire. On va juste passer un dernier moment dans la louange.
de ce que Benjamin vient de nous partager, je voudrais raconter ce qui nous est arrivé cet été. En fait, on a été en vacances et comme le trajet était long, parce qu'elle a choisi un endroit pour que nous puissions loger et couper le trajet en deux. Et quand nous sommes arrivés là, c'était une ferme, 4 étoiles, magnifique, c'était très très joli, perdu dans la campagne, mais nous ça nous allait très bien. Mais on s'est vite aperçu en arrivant que les deux personnes, les deux hommes qui nous accueillaient étaient plus que des amis. Et on a été troublés. On a sorti les valises, on a été les mettre dans notre chambre. On ne disait rien. Et je me disais, mais où est-ce que Pascal nous a conduits? Où est-ce qu'on est? Il n'y avait que nous et il n'y avait qu'eux. On était 5 dans la ferme. Et au début, on a été vraiment troublés. Mais on a dû parler avec eux. Ils nous ont accueillis et nous ont très bien accueillis. Plus les heures passaient, plus notre cœur a été rempli de la compassion et de l'amour de Dieu pour eux. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais en parlant avec eux, plus les heures passaient, plus Dieu a agi dans notre cœur. Et on a pu leur témoigner. On a pu prier après pour eux. Et je vais dire que je n'oublierai jamais ces moments. Et Dieu nous a parlé en vraiment nous disant « Je les aime, je les aime et ils ont de la valeur pour moi. » Et puis on s'est dit « Mais nous n'aurions jamais choisi cet endroit. » Ce n'était pas écrit sur Internet. On n'aurait jamais été là. Mais Dieu nous y a conduits et nous avons pu leur témoigner de l'amour de Jésus pour eux. Et vraiment, on est reparti avec une autre façon de voir ces personnes. Dieu a touché notre cœur et j'espère que Dieu a touché le leur aussi et qu'il va continuer son œuvre dans leur vie. Voilà.
Bien.